Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Christelle Yesso.
Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à cette édition. À la une de l'actualité. Depuis 2017, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur encourage les migrants ivoiriens dans l'illégalité à retourner au pays. À San Pedro, les autochtones propriétaires terriens pensent à sécuriser leurs terres. Au Sénégal, hier, juste après son investiture, le nouveau président Diomaye Faye a nommé son mentor Ousmane Sonko, Premier ministre. Et en invité de la rédaction, ce mercredi, le secrétaire exécutif adjoint du RHDP pour les élections se dit étonné que l'opposition appelle à une réforme de la CEI et à une épuration de la liste électorale. Dombia Brahima répondra à cet effet aux questions de Francis Cassi en fin d'édition. Arrivé hier à Abidjan pour une visite de 72 heures, le président italien Sergio Mattarella échange avec le président Ouattara aujourd'hui au palais présidentiel sur divers sujets dont la migration. Des entretiens élargis aux délégations et une conférence de presse conjointe sont aussi au programme, apprend-on. Ouverture mardi matin à Abidjan d'un atelier bilan de l'opération de retour et d'assistance à l'arrivée de 157 migrants ivoiriens en provenance du Niger. Organisé par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, cette rencontre, prévue sur 2 jours, permettra d'évaluer le dispositif mis en place, harmoniser les outils de profilage utilisés, mais aussi échanger les expériences. Linda Balier était à la cérémonie d'ouverture à Cocody, son compte-rendu.
La migration est au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien qui, depuis 2017, a mis en œuvre le dispositif de retour et d'assistance des migrants. Plusieurs opérations ont été effectuées, dont celle de 157 Ivoiriens du Niger, mi-janvier. L'objectif donc de cet atelier, relevé ici par le sous-directeur à la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, Tanin Guy Magloire.
Nous nous sommes réunis pour présenter les rapports de soutien impliqués dans l'opération.
Nous avons également l'identification des points forts et des points d'amélioration du dispositif. Nous allons également identifier les défis, harmoniser les outils de profilage et d'entretien. Il s'agit bien sûr des questionnaires utilisés par les différentes structures.
Pour l'OIM, cet instrument revêt une importance majeure dans la prise en charge des migrants et devrait donc être perpétué. David Preux, le chef de mission de l'OIM en Côte d'Ivoire.
Cet événement reflète notre engagement commun envers la protection, le retour et la réintégration des migrants en Côte d'Ivoire. La migration, ce n'est pas un phénomène instantané et qui se termine, c'est un phénomène continu qu'il faut continuer donc à gouverner et à gérer.
Si je pouvais faire un souhait, c'est d'institutionnaliser ce mécanisme pour qu'on puisse continuer à fonctionner ainsi.
Durant 2 jours, les 14 structures intervenant dans le dispositif de retour réfléchiront en vue de formuler des recommandations d'optimisation de celui-ci, ainsi que la prise en charge et le suivi des migrants de retour.
L'association des autochtones propriétaires terriens de San Pedro a entamé sa première assemblée générale ordinaire hier mardi après 22 ans d'existence. Cette association, avec pour objectif la préservation et la gestion rationnelle des terres, veut à travers cette assemblée générale faire le bilan de ses activités tout en envisageant des projections. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
Bloa Toro, cet instrument qui a vu le jour en 2002, est présenté par Koye Nyepa, chef de canton de la région de San Pedro.
Bloa Toro, qui signifie en langue locale roumaine, les terres de nos ancêtres, a pour objectif principal de sauvegarder, de protéger, de gérer notre patrimoine foncier rural. C'est aussi l'esprit de mieux garantir l'installation des uns et des autres, à la fois traditionnelle et administrative.
Terre la première assemblée générale après 22 ans d'existence, s'explique selon Tagnon Yukoupierre, premier vice-président de Bloa Toro.
L'Assemblée générale, nous avons mis du temps pour la faire parce que le commencement a été difficile, donc il fallait quand même asseoir une base solide pour pouvoir aller sur de nouvelles bases. L'association nous a apporté beaucoup. Les terres étaient données par l'État parce que c'était le préfet, mais les gens n'attendaient pas avoir une lettre d'attribution avant de s'installer. Donc c'était une anarchie. Donc avec ce outil, on était protégés.
Le chef du village de Taki Klakimou Bruno, l'existence de Bloa Toro est à saluer.
C'est une âge qui est importante pour nous qui sommes des jeunes chefs parce que l'avenir est aujourd'hui dans le foncier. Donc je trouve très important cette âge. Avant l'existence de Bloa Toro, nos terres étaient anarchiquement prises sans toutefois informer le protecteur terrien. Avec l'arrivée de Bloa Toro, on a eu vraiment un changement. Avant toute chose, le protecteur terrien informé. C'est avec son accord que le foncier ici dans la région Saint-Bédro, tout se passe bien.
Trois jours pour redéfinir donc Bloa Toro afin de la rendre plus performante. Kofi Benson, Saint-Bédro, Radio de la Paix.
Dans le Bounkani, le président du conseil régional, Ian Philippe, a procédé à des dons aux musulmans de Bouna, Nation, Teini et Doropo pour la période du Ramadan. Il s'est exprimé à ce sujet au micro de Jérôme Kouassi, nous l'écoutons.
On va dire que c'est le conseil régional que j'ai l'honneur de diriger qui a fait un don, comme chaque année d'ailleurs, à l'ensemble donc de la communauté musulmane de la région du Bounkani. Donc c'est un don qui a été réparti sur toute la région, sur l'ensemble des 16 sous-préfectures, donc des 4 départements. Nos collaborateurs ont veillé à ce qu'il soit fait dans la proximité, de sorte que presque toutes les populations musulmanes puissent saisir cette chance de bénéficier d'un peu d'appui dans ce mois béni de Ramadan où ils se rapprochent davantage de leurs créateurs, où ils se rapprochent entre eux, qui expriment donc la solidarité, le vivre ensemble et la cohésion qui est assez chère à nous. Et nous avons pensé qu'il serait bon que nous soyons dans la même dynamique que ces populations, cette communauté religieuse, que nous soyons dans la même dynamique que l'ensemble du pays qui est composé à environ 40% de musulmans et que nous avons pris plaisir à accompagner. C'est du sucre, c'est du riz, c'est du lait.
À l'instant, Ian Philippe, président du conseil régional du Bounkani. Et la fête de Pâques s'est célébrée ce week-end à l'intérieur du pays comme partout en Côte d'Ivoire. Le dimanche 31 mars 2024, le village de Blaye, dans le département de Boisflay, était aux couleurs de la Pâquinou, couplée de l'investiture du président de la jeunesse dynamique du village. Parrain de cette cérémonie, le ministre a délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Dr Serédo Célestin, a plaidé pour l'union entre les fils et filles de cette localité en vue de son développement. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Après son investiture à la tête de la jeunesse dynamique de Blaye, Kouadio Octave Noël a appelé les fils et filles de ce village à l'union pour le développement de cette localité.
Cette lourde charge que vous m'avez confiée, je ne saurais la réussir sans votre implication totale dans la fraternité et l'union d'antan. Chers jeunes, je sais compter sur votre dévouement indéfectible pour la réussite de notre mandature qui nous permettra d'apporter notre modeste contribution au progrès de notre village qui nous a tout donné. Monsieur le ministre, un sage nous disait ceci: le fils qui connaît les besoins de son père n'a point besoin de doléances.
S'adressant aux populations, le ministre a délégué auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes. Serédo Célestin est revenu sur l'essence de la fête de Pâques, mais aussi son message à l'endroit de cette jeunesse du village de Blaye.
C'est un rendez-vous de partage, à la fois culturel, mais de partage d'idées. Et pourquoi pas de partage de matériel. Moi, je viens les mains chargées vers mes parents. Je leur fais des cadeaux pour leur permettre de faire leur fête de Pâques. Mais en retour, je pars d'ici les mains chargées. Mais le socle même de notre discours, ce que nous avons donné comme message à la jeunesse que nous sommes venus investir, c'est la cohésion. Le rêve cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Il est à noter que lors de cette cérémonie de Pâquinou couplée de l'investiture du président des jeunes, le ministre Serédo était accompagné d'une forte délégation de chefs traditionnels venus du Guémon.
Également à l'est du département de Bouna, la Pâque a été célébrée avec faste dans le village Birifort de Menenko par les fidèles de l'église Miracle de Dieu, dont le siège se trouve au Ghana. Ces fidèles, qui avaient l'habitude de se rendre chaque année dans le pays voisin, ont décidé de célébrer la Pâque dans la partie ivoirienne de la congrégation. Les raisons de ce changement avec le pasteur Daniel, venu du Ghana.
My name is Pastor Daniel. I'm from here, Wolitin. There is a river in the boundary, so the people cannot cross the river. The church is increased. That is why we divide it into two.
L'église s'appelle Kone Naman, miracle de Dieu. Cela dit en français, miracle de Dieu. Au départ, on partait au Ghana là-bas pour faire fête des Pâques là-bas. Chaque année, on partait au Ghana. Mais maintenant, on voit que la route là est trop loin. Pour traverser l'eau là aussi, c'est un problème. Il y a d'autres qui sont pères de l'eau là. Avant, on n'était pas beaucoup. C'est pourquoi on va au Ghana là-bas. Mais maintenant, on voit que nous sommes beaucoup. C'est à cause de ça qu'on a divisé en deux. On n'a plus besoin de déplacer.
We came here for us to know each other too.
Parce que la manière que nous sommes là, s'il n'y a pas ça entre nous là, on ne peut pas se connaître. C'est à cause de ça que nous sommes décidés de faire ça pour que les autres qui sont quittés dans des villages pour venir, nous aussi on va les connaître et aussi ils vont nous connaître. C'est à cause de ça qu'on fait ça. Ça crée la cohésion sociale.
To have a fellowship with each other and to love each other. And that is why we are here.
C'était le pasteur Daniel de l'église Miracle de Dieu de Ménéco, dans le département de Bouna, dans des propos recueillis par Jérôme Kouassi. Au Sénégal, les choses s'accélèrent. Quelques heures après avoir prêté serment, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko, son alter ego, comme premier ministre de son gouvernement. Là-dessus, le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence, Oumar Sambaba.
Mesdames et messieurs, le président de la République, son excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé par décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 le premier ministre de la République du Sénégal. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Dans la foulée de sa nomination, Ousmane Sonko a remercié le président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance placée en sa personne et lui assure sa loyauté.
Je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne en nous nommant aux responsabilités de premier ministre du gouvernement du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble. Le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. Je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens.
Vous venez d'écouter le nouveau premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et juste avant lui, Oumar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence, dans des propos recueillis par Abdourahmane Diallo, notre confrère au Sénégal. Et nous en arrivons au dernier point essentiel de cette édition. L'invité de la rédaction de ce jour est le secrétaire exécutif adjoint du RHDP, chargé des élections. Pour lui, la réforme de la CEI et l'épuration de la liste électorale que des partis réclament avant la tenue de la présidentielle sont un stratagème pour préparer les esprits quant à leur éventuelle défaite à cette échéance. Doumbia Brahima répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Doumbia Brahima, bonjour.
Bonjour, cher frère.
Alors, la CEI annonce procéder à la mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril. Est-ce que vous êtes au courant?
Nous sommes informés par rapport au communiqué publié par la Commission électorale indépendante. Nous avons pris connaissance donc de cette opération. Donc, nous sommes informés.
Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, mise à jour de la cartographie électorale?
Il s'agit de tenir compte des modifications qui interviennent au niveau de la population. La mise à jour de la cartographie consiste donc à regarder les sites qui sont habités, celles qui méritent donc d'être érigées en lieu de vote, les lieux de vote qui n'existent plus, comment les remplacer. Et puis, bon, si vous avez de nouveaux villages, de gros campements, département où il y a un électorat potentiel qui mérite d'être érigé en lieu de vote. C'est tout ça qui constitue l'actualisation donc de la cartographie électorale.
Il y a des partis que nous avons déjà eus qui disent que oui, c'est bien de faire une mise à jour de la cartographie électorale, mais ce n'est pas la priorité et que le plus important, c'est la refonte de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
La refonte de la CEI, dans quel objectif? Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à la CEI? En tout cas, nous, au RADP, la formule qui est là, nous pensons que certainement on peut l'améliorer, mais elle n'est pas mauvaise parce que les élections qui ont été organisées tout récemment par cette commission électorale ont été bien organisées, tout le monde l'a reconnu. Les résultats qui sont sortis des unes ont été les bons résultats.
Mais il y a des partis qui soupçonnent la CEI d'être un peu trop proche de certains partis.
Bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais en tout cas, j'ai constaté que les élections qui ont été organisées sur la base des textes qui existent et que ceux qui ont gagné grâce au suffrage donc des populations. Ceux qui ont perdu aussi parce qu'ils n'ont pas été soutenus par les électeurs.
Alors, au Sénégal, il vient d'avoir une élection présidentielle saluée par tout le monde. Est-ce que le RHDP salue aussi cette élection comme démocratique?
Bien sûr, nous saluons cette élection, nous l'avons suivie. Les élections se sont déroulées conformément au texte qui encadre les élections au Sénégal. À la fin, il y a eu un vainqueur. Ceux qui ont perdu, avant même que la commission ne proclame les résultats, ont reconnu leur défaite. C'est de ça qu'il faut s'inspirer en Côte d'Ivoire. Parce que la CEI n'a pas de problème, c'est plutôt les candidats qui ont un problème.
Alors, quel est le problème des candidats, selon vous, en Côte d'Ivoire?
Le problème des candidats en Côte d'Ivoire, c'est de ne jamais reconnaître leur défaite. Quand ils ont gagné, ils sont contents. Quand ils perdent, c'est la commission électorale qu'on accuse. Et d'ailleurs, même sans preuve, parce que ceux qui disent que la CEI est proche de telle formation politique, quel est l'élément objectif qui leur permet de le dire?
L'élection présidentielle pour 2025, il y a des voix pour dire qu'il faut que tout le monde soit présent, notamment Laurent Gbagbo, Soro Diom, Blé Goudé et d'autres candidats, y compris le chef de l'État actuel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous souhaitons des élections les plus ouvertes possibles. Maintenant, après, il y a des textes qui organisent ces élections. Tous ceux qui remplissent les conditions pour être candidat doivent pouvoir être candidat.
Il y a le PPACI dont le candidat est handicapé par une condamnation judiciaire et récemment, on les a entendus dire qu'ils souhaitent ouvrir un dialogue avec le président de la République pour que ce problème de la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale soit fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je n'ai pas de commentaire là-dessus.
Concernant les élections de 2025 qui arrivent, vous, en tant que parti politique présidentiel, qu'est-ce que vous souhaitez pour toute la Côte d'Ivoire?
Nous souhaitons que ces élections se déroulent dans la paix et dans la quiétude, que les uns et les autres déroulent leur programme. Et qu'au bout du compte, celui qui va gagner soit félicité par ceux qui vont perdre.
Mais là-dessus, j'ai un observateur ou politologue qui disait que oui, on félicite ou on ne félicite pas, mais il faut s'entendre sur les règles du jeu. C'est ce qui est important pour lui.
Oui, mais les règles du jeu sont claires. Les règles du jeu sont données par les différents textes, par la Constitution, par le Code électoral et tout ça. Donc, je ne vois pas quelle est la divergence sur les règles du jeu. Pour le moment, je n'en connais pas.
Récemment, Camarate Souleymane Dissoul Toussoul, proche de Soro Diom, est allé rencontrer l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous soupçonnez un rapprochement entre ces deux partis?
Bon, j'ai constaté qu'il allait rendre visite. Ça peut être une visite de courtoisie, ça peut être un rapprochement, je n'en sais rien. Nous observons.
Mais ici, d'aventure, il y avait un rapprochement entre ces deux partis?
Je pense que ce ne serait pas nouveau. Les mêmes se sont associés, si vous vous souvenez, en 2020, pour faire le CNT. Et puis le boycott actif, donc ça ne serait pas nouveau.
Et la question de la liste électorale que certains partis souhaitent aussi revoir.
Revoir dans quel sens?
Ils demandent une refonte de cette liste électorale.
Si on veut parler de la transparence de la liste électorale, quand les opérations sont ouvertes, tout le monde en part. Quand les listes sont terminées, les listes sont remises aux partis politiques, les listes sont affichées dans les lieux de vote, les lieux d'enrôlement pour que tous les citoyens, tous les Ivoiriens puissent aller voir s'il y a des gens qui sont dessus et qui ne méritent pas d'être dessus. Bon, à l'issue de ces opérations, on n'obtient pas de contestation. Les gens ne décèlent pas des gens qui ne devraient pas figurer sur la liste électorale. Bon, à partir de ce moment-là, quelle est la raison pour la refonte de la liste électorale? Ce sont des arguments qui répondent à d'autres motivations, mais pas à des motivations de transparence.
Lesquelles motivations, selon vous?
Bon, politique politicienne, c'est tout. Hein. Essayer de retarder, essayer de discréditer le processus électoral pour mieux justifier peut-être leur défaite future. Dit qu'il faut refondre pour refondre, nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette voie.
Doumbia Brahima, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction avec Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint du RHDP, chargé des élections. Et c'est donc ici que prend fin cette édition. Maintenant, le rappel des titres. Depuis 2017, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur encourage les migrants ivoiriens dans l'illégalité à retourner au pays et la Côte d'Ivoire et son partenaire OIM réfléchissent dans un atelier bilan d'hier à aujourd'hui à comment plus les y inciter. À San Pedro, les autochtones propriétaires terriens pensent à sécuriser leurs terres. Ils ont eu à cet effet leur première assemblée générale ordinaire hier mardi. Et au Sénégal, juste après son investiture qui a eu lieu hier, le nouveau président Diomaye Faye a nommé son mentor, Ousmane Sonko, Premier ministre. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À présent, retrouvez la revue de presse avec Francis Cassis.
Bonjour à tous. Le prix officiel de la campagne intermédiaire du